Radio Foot International.
In Qatar.
Qatar.
Welcome to the FIFA World Cup.
Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur la Radio Mondiale. Aujourd'hui, nous avons laissé place au match et nous voilà donc dans cette unique édition tardive avec le Sénégal qualifié en huitième de finale. Première équipe africaine à décrocher sa place après sa victoire sur l'Équateur 20 ans plus tard. 20 ans après, les aînés, les lions de la Teranga, poursuivent donc une aventure mondiale. Logiquement, les Pays-Bas se sont imposés face au Qatar et sont premiers de ce groupe A. Et à 7 heures, eh bien après la victoire de l'Angleterre et celle des États-Unis, nous avons donc les affiches des huitièmes de finale concernant ces quatre équipes. Le Sénégal jouera l'Angleterre alors que les Pays-Bas joueront les États-Unis. Demain, autre finale dans deux groupes où il y a trois places à prendre, où la France s'est déjà, elle, qualifiée. L'Argentine de Messi jouera sa chance face à la Pologne de Lewandowski et l'Arabie Saoudite contre le Mexique. Un groupe où donc tout peut arriver. Dans le groupe des Bleus, Australie, Danemark et Tunisie peuvent se qualifier encore à 7 heures. Beaucoup d'actualités que nous allons analyser avec les invités du soir, nos visiteurs du soir. Bonsoir Marc Libra.
Bonsoir Annie, bonsoir à toutes
et
à tous.
Est arrivé le premier dans la cour des visiteurs du soir, Marc. Bonsoir Patrick Juillard.
Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous revoir.
Mais oui, on est rentrés, hein, vous entendez, mais on a un peu la saudade. Alors on écoute cette musique, ces jolis rythmes qui nous ont habités quand on était du côté de Doha. Bonsoir Chérif Guémour.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci d'être là, David Fidzel, lui aussi, est présent avec Laurent Salerno. Radio Foot, c'est parti.
Ça va être parti pour Ismaïl Assar. Il s'élance face à Galíndez. Ismaïl Assar, le but. L'ouverture du score pour le Sénégal ici, juste avant la pause. 1-0 pour les Lions.
Allez, le corner pour l'Équateur.
Attention, les Galíndez Assar. Tout est à refaire pour les Sénégalais.
Allez, ce coup franc pour les Sénégalais cette fois. Ça va être mis dans la boîte par Idrissa Gana Gueye. Il y a du monde, la retombée. Le but côté Sénégalais. Et c'est, bien sûr, Koulibaly. Kalidou Koulibaly qui vient reprendre ce ballon. Le coup franc, il était tiré par Gana Gueye.
Il y a quelqu'un qui remet le ballon au point de pénalty vers Koulibaly qui le reprend au premier poteau et qui vient fusiller Galíndez. Juste après avoir été repris à un partout, le Sénégal reprend sa marche en avant. Et même maintenant, 2-1 après 70 minutes de jeu.
De quoi en perdre sa voix pour Olivier Pron et Frédéric Suto. Et là, vous entendez bien la fête dans les rues de Dakar. Et oui, on fête cette qualification dans les rues du Sénégal. C'est décidément d'ailleurs une belle année pour le football de ce pays. Après avoir été sacré champion d'Afrique au début de 2022, les voilà quelques mois plus tard en huitième de finale de la Coupe du Monde, les Lions. Une qualification conquise, vous l'avez entendu, après une victoire et surtout une sacrée bataille face aux Équatoriens qui, eux, ont fini le match en larmes, d'ailleurs comme leurs supporters dans les tribunes. Ils sont éliminés après avoir commencé leur mondial par une victoire en match d'ouverture. Buteur de ces Lions, vous l'avez entendu aussi, Ismaïl Assar sur pénalty. Et puis le capitaine Kalidou Koulibaly, buteur et homme du match, le défenseur sénégalais qui se disait soulagé au micro d'Olivier Pron.
On savait que ça allait être difficile aujourd'hui. On savait qu'on devait seulement gagner ou on rentre à la maison. Pour moi, c'était hors de question qu'on rentre à la maison. Après avoir été champion d'Afrique en début d'année, je pense que le champion d'Afrique ne méritait pas de sortir à ce premier tour. Il y a eu beaucoup de questions sur nous. C'est après le premier match, mais on y a toujours cru. Nous, premiers, les joueurs, on y a toujours cru. On savait qu'on était capable de le faire. On l'a fait, on peut être content ce soir.
Qu'est-ce qui fait la différence? On a vu un Sénégal comme on ne l'avait jamais vu quand même depuis le début de cette Coupe du Monde. Un Sénégal joueur, un Sénégal qui était prêt à mourir sur le terrain.
Ouais, c'est vrai, le Sénégal est plus fort que quand il est dos au mur. Et quand on est dos au mur, on arrive à faire des choses exceptionnelles.
Le champion d'Afrique tient son rang, et ça aussi c'est important, il montre la voie.
Oui, c'est vrai. On savait que ça allait être difficile, mais voilà, ça donne de l'espoir à tous les pays africains maintenant. On sera toujours derrière eux. Ils sont capables de le faire aussi. On l'a fait maintenant à eux à leur tour. J'espère qu'on sera leur premier supporter. J'espère qu'ils le feront maintenant. Mais voilà, on savait qu'il fallait tenir notre rang. Il y avait beaucoup de pression sur notre équipe, mais on l'a fait. On peut être content.
Le Sénégal qui ouvre la voie aux quatre autres représentants du continent africain. On le verra les jours prochains. Plus fort dos au mur. C'est assez frappant ce qu'il a dit et même, on a le sentiment, très juste, Patrick Juillard.
Oui, cette équipe est meilleure quand elle n'a pas à calculer. On l'avait vu en 2018 s'enfoncer un petit peu après avoir commencé parfaitement en gagnant son premier match de Coupe du Monde contre la Pologne. Ensuite, elle avait un petit peu baissé de pied. Elle avait fini par calculer au dernier match et ça lui avait été fatal. Là, au contraire, il fallait gagner, ils l'ont fait. Une équipe qui a pris de la maturité en 4 ans. L'ossature est restée la même, mais Aliou Cissé a su apporter les petits changements, apporter un peu des ingrédients nouveaux qui évitent ce groupe de se transformer en sénateur comme d'autres équipes, comme la Belgique par exemple. Et là, on voit une équipe mature avec à la fois de la jeunesse et de l'enthousiasme, dont Illiman Ndiaye qui a été très bon, beaucoup de qualité de dribble et de vitesse chez ce joueur, mais aussi de la maîtrise du savoir-faire, avec deux buts marqués par des tauliers de l'équipe. Hein. Ça, c'est pas un hasard. Quand c'est Kalidou Koulibaly qui marque, ça montre que le patron est là. Et quand le patron est là dans cette équipe, même si Sadio Mané, lui, ne l'est pas, elle peut aller loin. En tout cas, elle va en huitième et elle n'a aucun complexe à faire, quel que soit son adversaire. Elle peut embêter beaucoup d'équipes.
Marc Libra, quand il dit son dos au mur, c'est vrai que quand il y a l'égalisation, il marque dans les 3 minutes, je crois. Et on se souvient aussi quand ils avaient joué contre le Qatar, c'est pareil. À un moment, oui. Le Qatar revenait au score et là, ils avaient accéléré pour pouvoir être devant.
Je pense que cette équipe du Sénégal, quand on dit dos au mur, c'est dos au mur par rapport à Sadio Mané. Parce que lors du premier match, il manque pas grand-chose sur le premier match. Ils prennent 2 buts en fin de rencontre, 85 et 90, il me semble. Donc, et là, de suite, on dit ben c'est normal, hein, c'est normal, il n'y a pas Sadio Mané. En fait, je pense qu'ils ont dû prendre conscience que quoi qu'il arrive, ouais, il n'est pas là. Mais maintenant, on existe sans Sadio Mané. Et pour moi, c'est une équipe, c'est un diesel qui va monter en puissance au fur et à mesure. Et on l'a vu face au Qatar, s'ils reviennent au score et puis... Et puis ça se relance, puis la machine se met en route. Et là, sur cette rencontre-là, pareil, on voit des hommes impliqués, des hommes qui s'arrachent. On n'attend plus après la star, c'est le collectif qui prime. Et Koulibaly, capitaine, l'importance de ce but, qui n'est pas lui forcément un grand buteur, mais qui va mettre ce but-là. Donc il y a des faits marquants,
des signes marquants
qui prouvent que cette équipe-là peut faire la différence. Mais pour moi, le premier match, il fallait vraiment... Pour moi, ils ne méritent pas de perdre sur le premier match. Ils ne sont pas loin, ils leur manquent. Mais de suite, on leur a dit « Ah, mais c'est normal, ils perdent, il n'y a pas Sadio. » Donc en fait, c'est fini pour eux. Il n'y a pas Sadio Mané et tout va s'arrêter.
Non,
je
pas
pense
le cas.
Qu'ils ont dû... Non, oui, mais pour eux, la plupart des gens ont dit ça. Ils ont dû prendre conscience en interne. Attendez les gars, il n'est pas là, ok, mais nous, on peut exister et on va exister. Donc j'espère qu'ils vont continuer. Et bon, on sait bien dans l'adversaire. Ça va être difficile, mais c'est faisable.
Chérif Guémour, ils ont tenu leur rang. C'est ce que disait Olivier Pron, champion d'Afrique. Ils arrivent, ils ont tenu leur rang, selon vous ?
C'était indispensable parce qu'au tirage, on savait que les Pays-Bas finiraient premiers et il y avait une deuxième place à prendre avec l'Équateur. Une équipe africaine est passée devant une équipe sud-américaine, c'est jamais un hasard. Il ne faut pas dire c'est normal, c'est l'Équateur, c'est pas le Brésil. Non, c'est une équipe sud-américaine, il faut les battre.
Ils avaient fait un très bon tournoi qualificatif, l'Équateur. Ils n'étaient pas là par hasard, ni
en plus,
au barrage.
Voilà, ils ne sont pas là par hasard. Deuxièmement, le fiasco du foot africain est évité. En 2018, aucune équipe africaine n'était en huitième. Il faut le souligner. Donc déjà, voilà, il n'y aura pas un fiasco total, parce qu'on va attendre un peu. Bon, il y a quand même
Balotage. Mais c'est vrai que de là, on se dit, le champion d'Afrique, au moins, qu'il montre l'exemple. Quoi.
Voilà, mais ces choses-là ne sont jamais secondaires. Et après, je rejoins Marc. Moi, je vois le premier match du Sénégal contre les Pays-Bas. Ils ont fait jeu égal. Ils perdent 2-0, ils craquent sur la fin. Et comment dire, maintenant, cette équipe du Sénégal, on arrive à voir ses forces, notamment au niveau du mental, au niveau du jeu, mais on voit aussi ses limites. Je n'ai pas été non plus pleinement satisfait par les 3 matchs du Sénégal. C'est bien, il fallait battre le Qatar. Ils l'ont bien fait, ils ont un peu buté. Et cet après-midi, voilà, ils ont battu le Qatar. Mais peut faire mieux. Mais c'est déjà ça. Hein. Déjà, le contrat est rempli.
Alors l'Inde, on a fait allusion au fait que le Sénégal, pour sa première participation en 2002, s'était hissé lui aussi en huitième de finale. On sait qu'ils sont allés... Oui, ils étaient allés plus loin, mais en tout cas, ils étaient sortis de la poule pour aller en huitième de finale à ce moment-là. Qui était dans l'équipe ? Eh bien, à ce moment-là, il y avait Habib Bey. On l'a appelé tout à l'heure, Habib Bey. Il était de cette aventure et justement, écoutons son émotion. Il était heureux de la qualification et il va aussi un peu dans votre sens, Marc. Écoutons-le.
Je suis passé par toutes les émotions, puisque forcément, ce match a été un match à tension, mais... Ce qui est sûr, c'est que quand il y a le coup de sifflet final de M. Turpin, on a une grande satisfaction. On se revoit 20 ans en arrière, vivre la même situation. Et c'est vrai que de voir Aliou Cissé à la tête de cette équipe, ces jeunes gamins et ces jeunes compatriotes sénégalais qui arrivent à obtenir cette qualification en huitième de finale, elle est surtout méritée dans le jeu. Mais il y a une vraie émotion pour plein de raisons. Déjà, de voir le Sénégal en huitième de finale, mon pays. Et puis là, aussi de penser à Pabou Ba Diop qui a été si important il y a 20 ans. Et qui nous a quittés il y a 2 ans, jour pour jour. Donc, on a une pensée pour sa famille, une pensée pour tous les Sénégalais qui aiment le football sénégalais, qui aiment Pabou Ba Diop. Et je suis sûr que d'où il est, il a dû veiller sur ses frères. Mmh. Et je pense que cette qualification est tout à fait méritée.
Alors, une qualification quand même arrachée dans la douleur. Hein. Le premier match avait été compliqué. Les deux autres, eh bien, on a 2 victoires. Comment vous la voyez, cette équipe sénégalaise, dans la suite de la compétition ? Qu'est-ce qu'il faut le plus ? De la technique, du mental ?
Non, je pense que mentalement, elle a prouvé qu'elle était solide. Après, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que les Pays-Bas, donc le premier match pour les Sénégalais, était le match le plus difficile en termes d'adversité. Et surtout, il fallait aussi peut-être digérer l'absence de Sadio Mané, qui était omniprésent dans les discussions, qui était omniprésent dans cette logique de « Ah, maintenant, ça va devenir difficile pour le Sénégal ». Et je pense que cette défaite contre les Pays-Bas, elle a eu comme objectif, ou en tout cas, à un moment donné, comme « Allez, on va prendre le négatif et on va le transformer en positif », de se dire « Ça y est, on est dans la compétition, il va falloir faire sans Sadio Mané ». Il faut arrêter de parler de Sadio. Sadio est là avec nous et va supporter ses frères. Et au fond, elle a pris ses responsabilités, cette équipe, et elle s'est prise en main. Et à l'image du match d'aujourd'hui, ce sont des matchs qui sont difficiles, mais voilà, il y avait des enseignements positifs à tirer malgré tout. L'inexpérience pour certains joueurs qui ont montré un petit peu plus de constance sur le deuxième et le troisième match. Et je pense que ça a été très positif pour la victoire d'aujourd'hui. Donc, c'est un long chemin, vous savez, une Coupe du Monde. Nous, on avait commencé par une victoire face à la France et puis derrière 2 matchs nuls qui avaient été aussi difficiles face au Danemark et à l'Uruguay. Donc, je pense que l'objectif, c'était de sortir en huitième de finale. Ils ont construit en quelque sorte leurs 3 matchs de poule. Et aujourd'hui, tout peut arriver.
Tout peut arriver, effectivement. Et c'est vrai que Habib était d'accord avec vous, Marc. Hein, c'est-à-dire, il y avait ce poids Sadio Mané sur le premier match, et puis après on s'en déleste et on passe à autre chose.
Habib est mieux placé par rapport à la sélection, mais moi c'est ce que j'ai pu ressentir et entendre par rapport à toute la presse. Ah mais c'est normal, ils sont foutus. C'est-à-dire que je pense que quand on est joueur et qu'on entend ça, quoi, on est foutu parce qu'il y a, oui, il est plus là, mais tout le monde, ah non mais c'est normal, Sadio Mané est plus là, non mais c'est normal. En fait, ils se sont dit, mais il faut nous prendre au sérieux parce qu'on existe, on est là.
Leur meilleur atout il était deuxième au Ballon d'Or. Je pense que c'est ça qui... Il y avait sans doute une déception qu'il ne soit pas dans le groupe.
Complètement, mais voilà. Il faut avancer parce qu'il n'est pas là. Donc, et la presse qui s'empare du truc en disant « Ah mais ils passeront pas de toute façon ». Et quand on voit le premier match, on se dit « Tiens, ça passe pas loin parce qu'ils peuvent marquer rapidement, clairement. Ils peuvent faire la diff ». Et finalement, ça bascule d'un côté, mais ça aurait pu très bien basculer de l'autre côté.
Le deuxième but, effectivement, c'est parce qu'ils cherchaient à égaliser. Hein.
Oui, Sadio Mané manque aussi parce que c'est le meilleur buteur de cette équipe en temps normal, outre le fait d'être à la fois son âme et le dépositaire du jeu, c'est aussi le meilleur buteur.
Et du coup, on a un défenseur qui marque.
Voilà, alors ce qui est un peu la limite pour moi, si on doit en trouver une et un axe de progression, c'est qu'il y a quand même du déchet en phase offensive. Il y a pas mal d'occasions manquées, malheureusement.
D'approximation.
Maintenant, aujourd'hui, ils ont continué à pousser. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a un vrai jeu collectif dans cette équipe, même sans Sadio Mané. On voit les bases du travail d'Aliou Cissé. Le schéma tactique est clair, il est respecté. On peut enlever un Crépin Diata et mettre un Iliman Ndiaye, qui est un tout jeune joueur de D2 anglaise à la place. Ça fonctionne quand même. Et ça fonctionne même mieux parce que Diata avait tendance à un petit peu... être un peu gourmand et à mal finir ses actions. Donc Tout ça montre qu'il y a quelque chose, il y a des bases, et il y a plus que... Ce n'est pas une équipe qui vaut que par son meilleur joueur, il y a tout un fond de jeu, quoi.
Oui, et puis on a vu hein, sur l'ensemble des équipes africaines, on en parlait hier, qu'il y a quand même... on commence à entrer dans la compétition, on commence
ça
à...
Ça monte en puissance.
Voilà, ça monte en puissance parce qu'on joue les uns avec les autres et qu'on a fait trois matchs, en l'occurrence pour le Sénégal. Aliou Cissé, pour ce qui est de Sadio Mané, il a dit cette victoire, j'aimerais aussi la dédier à un homme qui fait des choses extraordinaires pour le pays, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Cet homme s'appelle Sadio Mané. Mais le sélectionneur a aussi dit autre chose et nous allons l'entendre parce qu'il était en larmes hein, sur le terrain. On l'a vu pleurer, on l'a vu rentrer au vestiaire vraiment très, très habité par la joie et l'émotion. Lui qui est en poste depuis 2015, il explique qu'il puise sa force dans la continuité.
C'est un groupe que j'ai construit depuis pratiquement plus de 7 ans. Donc tous les joueurs qui sont arrivés ici, je connais leur niveau, je sais ce qu'ils sont capables de faire. Je le répète, je le dis, une équipe de football, ce n'est pas seulement que des individualités, mais c'est surtout un collectif, un schéma tactique où tout le monde adhère, tout le monde comprend notre plan de jeu et adhérer à faire en sorte de donner son mieux, son maximum pour que justement l'équipe gagne. Ce qui est important, c'est surtout ce caractère que j'ai vu dans cette équipe-là. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous, le Sénégal. Être capable, si vous voulez, de faire front, être capable aujourd'hui de garder un score, de se battre. Et ça, vraiment, je voudrais féliciter tout l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des joueurs.
Ça corrobore ce que vous disiez, hein, Patrick Juillard. Vous sentez-vous aussi, Chérif Guémour, qu'il y a une progression dans cette équipe, dans le jeu ?
Mais de toute façon, quand on voit Aliou Cissé, on est rassuré déjà. On sait pourquoi il est là, on sait ce qu'il fait, il a une idée. Il suffisait de le virer en 2019 à la CAN, il a perdu contre l'Algérie. Bah écoute, contrat pas rempli, bye bye. Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Heureusement, parce que nombreuses équipes, ça peut se passer comme ça, Chérif.
C'est exactement pour ça que j'insiste. On a mis en place une continuité. De toute façon, on en avait parlé lors de la dernière CAN. Quand vous voyez Sadio Mané et Cissé, on se dit tiens, il y a un binôme qui fonctionne. Il y a quelque chose qui passe entre les deux, donc qui va forcément rejaillir sur l'ensemble du groupe.
C'est comme Scorsese et De Niro. Hein.
Voilà, non mais voilà, merci.
Comme Eckhart et Jekyll.
Merci, cette allusion cinématographique. Donc voilà, quand il y a un binôme fort, même si Sadio Mané n'était pas là, bon, absolument, mais comme il restait de toute façon un lien fort entre un sélectionneur et son groupe, on voit que c'est une équipe qui ne perd pas le fil, de toute façon qui a un fil et qui ne le perd pas. Mais c'est évident, de toute façon, quand on voit Aliou, on sent qu'il y a une présence, une idée de jeu et puis ouais, et surtout une continuité. Il ne faudra pas le virer si jamais le Sénégal gicle en 8e, ce qu'on ne leur souhaite pas absolument. Il faudra quand même le garder, toujours.
Il a instauré non seulement de la continuité, mais aussi de la régularité. Si vous prenez tous les résultats du Sénégal dans tous les grands tournois, ils perdent très peu, ils encaissent très peu. Ce n'est pas toujours magnifique à voir, mais c'est rarement inefficace. Mm-hmm. Et il y a surtout pour moi un point tournant, c'est l'année 2022. La finale de la CAN où ils surmontent un pénalty raté pour au final s'imposer au tir au but contre l'Égypte, ça c'est déjà costaud. Et ensuite rebattre cette même équipe égyptienne qui est hyper coriace et
pour les qualifications.
Qui ferait beaucoup de mal à bien des équipes européennes à cette Coupe du Monde par sa rugosité défensive, et ben ils la rebattent ensuite. Donc ça, mentalement, ça leur a donné beaucoup de force et on le voit. Ils ne sont pas forcément meilleurs dans le jeu qu'ils n'étaient il y a 3 ou 4 ans.
Absolument.
Mais en revanche, dans la solidité, dans la confiance en eux, ils ont atteint un palier.
Dans leur mental.
Un palier énorme. Quoi. Et ça peut les emmener assez loin, je ne sais pas jusqu'où, mais moi, je crois en cette équipe.
Si on va aller un petit peu plus loin, on peut se dire aussi qu'en Afrique, il y a beaucoup de turnover au niveau des entraîneurs et que les joueurs, à certains moments, peuvent se prendre pour des entraîneurs ou pour d'autres choses.
Suivez mon regard.
Non, mais...
Vers le Cameroun.
Non, mais voilà. Et là, tu sais que tu as quelqu'un qui est en place depuis 2015 et tu sais qui c'est, tu sais ce qu'il a vécu avant. Donc, il y a énormément de respect par rapport à ça. Donc, tu ne peux pas permettre d'arriver et de faire le cador. Donc, tu es obligé de te mettre au pli.
Il a un ascendant, quoi.
Et puis non, mais c'est pas ça. Habib en parle. Ces gens-là sont toujours en relation. Ils sont toujours très proches. Ils parlent entre eux. C'est mon frère, c'est ceci, c'est cela. Donc, ce qu'ils ont vécu il y a plus de 20 ans.
Oui, on a vu Eladji Diouf fêter cette victoire sur le terrain.
Exactement.
Il est dans le groupe, donc il y a une continuité effectivement.
C'est ces bébés-là qui ont vu en 2002 leurs grands frères. Aujourd'hui, c'est eux et les grands frères sont là pour les voir. Donc, tu as l'honneur, je pense que là, c'est vraiment un privilège d'être là. Si tu es là, tu ne fais pas n'importe quoi. Mmh. Alors que dans certaines sélections, ça part dans tous les sens. Et voilà. Mmh.
Mais il y a aussi les regrets de 2018. Parce qu'ils auraient très bien pu passer.
Exactement. Première équipe éliminée sur cette règle des cartons.
Là. Alors là, malheureusement, celui qui a pris deux cartons jaunes, c'est
Idrissa Gueye. Il ne sera pas là en huitième. Et ça, c'est. Ouais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Aliou Cissé avait un petit peu fait évoluer son milieu et mis Pathé 6 à la place de Nampalis Mendy, qui normalement forme un binôme de récupérateur avec Gueye. Idrissa et Pape Gueye. Donc, je pense qu'on va avoir Nampalis Mendy qui va rentrer à la place d'Idrissa. Mmh. Ça ne remplace pas parce qu'Idrissa, il a en plus des autres une capacité à se projeter offensivement. Aujourd'hui, c'est lui qui a la première occasion nette sur une frappe au ras du poteau qui aurait pu faire but. Donc, ça ne sera pas remplacé, mais ils trouveront d'autres ressources.
Mmh. Ouais, décidément. Et
ils se battront
jaunes
pour lui.
Les poursuivent un peu. Voilà pour ce qui est donc du Sénégal et on va y revenir dans quelques instants en évoquant son adversaire. Mais l'autre rencontre en parallèle dans le même groupe, c'était celle entre Pays-Bas et Qatar. Troisième défaite pour les Qatariens qui étaient déjà éliminés avec 0 point, ce qui est une première pour un pays hôte. Mais on savait que la sélection qatarienne vient de très loin dans ce pays qui n'a pas ou pas encore, de culture football. Les Pays-Bas finissent donc premiers du groupe. Ils ont gagné 2-0. Le Sénégal est deuxième. Les Lions sénégalais retrouveront donc d'autres Lions, la Free Lions, n'est-ce pas, anglaise. Ce sera dimanche à 20h heure de Paris, donc 19h en temps universel. Et les Pays-Bas USA, ce sera samedi 16h heure de Paris et donc 15h en temps universel. Justement, parlons de cette sélection anglaise.
To Marcus Rashford with the free kick. Oh, what a free kick! England take the lead, and that was special. Marcus Rashford does it for England. Kane on the right-hand side plays it across. Foden arrives at the back post. It's 2-0, and Phil Foden now scores his first goal at a World Cup. Great moment for Rashford. And seconds later, a great moment for Foden. 2-0 England.
Une victoire anglaise dans le derby britannique de ce groupe B face aux Gallois, des Gallois plutôt faibles ou limités, malgré Gareth Bale. Eh bien, ce sont les Anglais qui se sont imposés 3-0 et plutôt assez facilement, Sheriff Gaymour.
Oui, c'est pas mal. Ils ont apporté la réponse qu'on attendait d'eux après la déception contre les États-Unis.
Un match nul.
Oui, voilà, le match nul. Ils sont à leur place. Je pense que globalement, comparé à pendant très longtemps où l'équipe d'Angleterre, c'était les montagnes russes, il commence à y avoir une régularité, une variété dans le jeu. Il n'y a malheureusement pas assez de grandes stars comme certaines équipes peuvent l'avoir. Il y a quelque chose qui se met en place. Ils jouent les compétitions de plus en plus souvent, ce qui n'était pas leur cas avant. Ils vont de plus en plus loin. Je vois de la variété dans le jeu. Là, ils arrivent à jouer à la fois continental. Ça, c'est l'œuvre bénéfique des entraîneurs du continent qui sont venus enrichir un peu le football anglais. Et tout en gardant aussi un certain aspect britannique au niveau du combat, sur les coups de pied arrêtés, avec les coups de boule de Maguire. Pour moi, c'est un football qui progresse. Est-ce qu'il est devenu plus compétitif ? Il y a des limites parce que le réservoir anglais est aussi très limité. Il ne faut pas oublier que 65% des joueurs qui jouent en Première Ligue, c'est des étrangers, donc ça limite. Mais faut prendre cette équipe au sérieux. Elle arrive maintenant régulièrement dans les quarts, voire dans le dernier carré. Elle est en train de monter, je ne sais pas. A priori, ça va faire un super beau match contre le Sénégal. A priori, pour moi, ils partent favoris, à confirmer. Mais il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui progresse dans le jeu et dans son identité.
Marc Libra, Angleterre, comment vous est parue l'équipe anglaise finalement ?
Une équipe anglaise qui sur le premier match est assez impressionnante face à l'Iran, mais on me dit ouais mais c'est l'Iran, c'est facile, et puis on retombe dans leur travers sur le deuxième match où ils font face aux États-Unis un triste match. Après moi ce qui me rassure pas trop, c'est que Harry Kane est ultra présent, il a toujours pas marqué. Donc j'aimerais bien qu'il ne se réveille pas contre nos amis sénégalais. Mais...
Alors c'était le contraire, tu te rappelles, en 2018, il avait beaucoup marqué dans les poules.
Exactement, et
il a disparu. Il a fini meilleur buteur du mondial.
Voilà, oui, avec 6 buts, c'est ça ?
6 buts.
Voilà. Mais là, à l'heure actuelle, Harry Kane, il est un petit peu partout, sauf devant le but. Donc ça bénéficie à tous les autres. Foden qui vient de rentrer.
Passeur décisif pour Foden.
Oui, hein, oui. Ouais. Mais oui, justement, Foden qui vient de faire sa rentrée, Rashford qui rentre, qui marque des buts. En fait, Southgate a vraiment fait tourner et il a apporté énormément de diversité. Vous dire qu'aujourd'hui, Walker est de retour, donc il a joué. Il y a énormément de joueurs qui ont joué. Cette équipe-là, elle se connaît par cœur, à part Bellingham qui joue en Allemagne. Tout le reste, ça joue en Angleterre. Donc, c'est équipé. Ils sont équipés à durcir. On m'avait dit oui, mais ils vont jouer à 3. Maguire, il n'est pas très bon. Oui, non, ouais. Mais il joue à 4, mais on a sécurisé 4 parce que Maguire n'était pas très bon. Maguire, actuellement, il tient quand même la route.
Maguire,
il tient la route. Non, mais au début du mondial, on nous a dit attention, on va rassurer, donc on va remettre 4 défenseurs parce que Maguire n'est pas très bien.
C'est-à-dire que Maguire, c'est qu'il ne joue pas du côté ou peu du côté de Manchester United.
Mais chaque fois qu'il joue, il n'est pas mauvais.
Non, mais surtout, il est meilleur en équipe nationale
mais voilà,
qu'en club.
C'est surtout ça.
De toute façon, il est protégé. Et puis, le bloc est un peu plus bas que Manchester. Ouais.
Aujourd'hui, on a vu Southgate mettre deux ailiers aux pieds inversés sur les côtés, Foden et Rashford. Ça a apporté un peu d'explosivité, mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de jeux collectifs. C'était un peu des initiatives individuelles.
L'Afrique qui se crée des occasions.
Bien sûr, mais c'est quand même très, par rapport au matos qu'il y a et par rapport à la faiblesse de l'adversaire, c'est pas terrible.
Patrick,
le coup franc, il est magnifique, mais c'est le gardien gallois qui place son mur comme un manche et qui est à 3 mètres du ballon. Et... ça fait quand même pas grand-chose. Alors après, moi, j'ai beaucoup aimé leur premier match. J'avais été très agréablement surpris. Et là, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon, on a gagné le premier par un très large score, donc 3 points plus... une différence de but énorme, on en a presque 4, on est presque qualifié. Donc là, ils se sont mis un peu en mode vacances. Et je pense qu'ils peuvent réenclencher, mais peut-être qu'ils ont un peu attendu là,
n'oubliez pas, n'oubliez pas que pendant très longtemps, les joueurs anglais qui étaient sélectionnés, ce n'était pas du tout leur motivation d'aller jouer avec l'équipe d'Angleterre. C'était d'abord, on joue pour le club. Il y avait une sorte de distance... parce qu'il y avait tellement de déceptions. Alors là, bon, ça, c'est la faute des médias britanniques, du public et tout, qui à chaque tournoi les voyaient champions. Et à un moment, ça s'est arrêté. Je crois que c'est à 2016, à l'Euro. Là, on a compris que l'Angleterre était rentrée dans le rond une bonne fois pour toutes. Et depuis ce moment-là...
battue par l'Islande à l'époque, oui.
Battue par l'Islande. Mais vraiment, là, on comprend. On comprend, on est à sa place hein, par rapport à la France, l'Espagne, enfin, les grandes équipes. Il y a maintenant un nouvel attrait pour les joueurs anglais de se retrouver dans la sélection britannique, d'aller le plus loin possible, de créer quelque chose. On l'a vu au dernier Euro.
Bah oui.
De toute façon, c'est sûr qu'il y a des résultats.
Avant, c'était pas le cas.
Demi-finaliste de Coupe du Monde, finaliste de l'Euro, c'est des résultats. Ça, il n'y a rien à dire.
C'est peut-être la défaite de l'Islande.
Mais depuis 2016.
C'est peut-être ça qui a réveillé tout le monde.
Avant, je suis joueur anglais. Moi, mon but, c'est d'être champion d'Angleterre. C'est ce qui compte. Ouais. Et éventuellement, gagner la Ligue des Champions. Mais d'abord, être champion d'Angleterre. C'est les mecs
première
qui sont comme des rois.
Première Ligue à fond.
Tu vas jouer avec l'Angleterre. Peut-être. On va voir. Là, maintenant, non. Ils sont contents d'être là.
Alors Marc, comment va se comporter finalement? Comment imaginer ce match entre le Sénégal et l'Angleterre? On y reviendra. Mais comment vous le voyez quand même?
Je pense déjà que l'Angleterre est favori de cette rencontre par rapport à l'expérience et tous les joueurs qui sont en face. Il va falloir gérer le milieu de terrain anglais et surtout Harry Kane, parce qu'Harry Kane est un électron libre qui est capable. Est-ce que c'est Koulibaly qui va jouer avec... Koulibaly l'a croisé déjà, ils sont croisés Tottenham contre Chelsea. Ils ont dû se croiser ou pas.
Oui. Il me semble, oui.
Chelsea-Tottenham.
Oui, parce qu'il y a encore des matchs qui ne sont peut-être pas croisés.
Oui, Chelsea-Tottenham, oui.
Voilà, mais... je pense que l'élément Harry Kane peut être très important et le milieu de terrain, qui va jouer au milieu de terrain, qui va faire la différence.
Le possible retour de Sékou Kouyaté peut faire beaucoup de bien. D'abord parce que c'est un joueur qui joue en première ligue depuis presque 10 ans. Et ensuite parce qu'il a une capacité à être à la fois... c'est un peu comme Danilo au PSG. C'est un joueur qui peut être à la fois en défense centrale et en milieu défensif, qui peut un peu faire l'essuie-glace comme ça et gêner pas mal les déplacements et le jeu dans les intervalles. Et puis surtout, il est grand, il est impressionnant. Donc ça peut être un joueur qui peut compenser l'absence de Ganagay, parce que lui est un joueur encore plus expérimenté. Et ça peut être, à mon avis, la botte secrète d'Aliou Cissé à laquelle on ne pense pas forcément du... Mais encore faut-il qu'il soit rétabli.
Mais l'équation, elle est simple. De toute façon, il faut que les Sénégalais refassent le même match qu'ils ont fait contre les Pays-Bas, c'est-à-dire aller bousculer les Anglais, parce que ça, ils vont sûrement pas s'attendre. Parce que si jamais on laisse jouer les Anglais, poser leur jeu, comme tu dis, Harry Kane, on lui laisse du mouvement,
ah oui,
avec les flèches qu'ils ont
ils
devant.
Ils peuvent avoir la possession, les Anglais.
Voilà, c'est ça.
Declan Rice, qui est au milieu de terrain, qui fait un peu ce qu'il veut, il va falloir s'en occuper.
Parce que c'est quand même je long, je cours. Important. En plus, maintenant, ils savent combiner. Je pense que Sterling va revenir très certainement contre le Sénégal.
Hein et Bellingham, alors, quel joueur.
Ah oui.
Mais alors voilà, si on laisse jouer l'Angleterre, si on est timoré, si ouais, on est le petit Sénégal, c'est foutu. C'est foutu. Faut bousculer comme ils ont bousculé Néerlandais. Et s'ils marquent, gros doute des Anglais.
Un petit peu même comme ils ont fait contre l'Équateur. C'est-à-dire ils sont efforcés de garder le ballon le plus loin possible de leur but pour pas jouer vraiment sur laisser beaucoup de latitude
ouais,
aux Équatoriens.
Ça revient vite avec les Anglais. Patrick,
ça peut aller dans
vite.
Le dos, je sais bien.
Ça revient vite, parce qu'ils ont du jeu long, les Anglais.
J'ai trouvé qu'ils avaient bien gêné ces Équatoriens qui étaient une belle équipe. Il hein. Faut pas les sous-estimer.
Des Stones, des Declan
voilà.
Rice, ils te renvoient ça. Hein.
Ce sont donc les Anglais qui seront les adversaires des Sénégalais pour ce huitième de finale. Et on y reviendra, bien sûr. On se projettera dans Radio Foot International. Les Iraniens ont été battus. C'était le match parallèle de la soirée de ce Angleterre-Pays de Galles et c'était Iran-États-Unis. On vous en avait parlé sur le côté un peu géopolitique. En tout cas, malheureusement, les États-Unis ont inscrit un but et les Iraniens n'ont jamais réussi à le faire. Il y a eu 9 minutes de temps additionnel. On a vu les Iraniens pilonner le gardien américain essayer de marquer le but. Ils n'y sont jamais réussi parce qu'un match nul les aurait qualifiés,
ouais,
en fait,
sûr.
Ces Iraniens. Alors, on était bien tristes pour eux. Ils étaient d'ailleurs exténués hein, à la fin de ce match. Et ça survient au moment même où la FIFA a décidé d'autoriser des messages de promotion des droits humains et surtout ce message qu'on a lu sur des t-shirts par notamment des Iraniens, mais pas seulement, ceux qui encouragent aussi les gens dans la société qui se battent au nom de Mahsa Amini, cette femme qui est morte à la fin du jeune femme à la fin du mois de septembre pour avoir mal porté son foulard et des t-shirts où il est écrit « Femme, vie, liberté ». Par contre, la FIFA précise qu'elle continuera à faire attention à tout ce qui est message politique, notamment subliminal. On continue donc et on va s'intéresser au match de demain. Et oui, los argentinos, ils y sont à Doha, car c'est l'heure de vérité pour l'Albi Celeste. Elle a rendez-vous avec la Pologne. Deux équipes qui ont un atout maître hein, chacune et que l'on connaît bien. Lionel Messi d'un côté, Robert Lewandowski de l'autre. Et au centre, on peut dire le FC Barcelone qui, d'une certaine façon, indirectement, les rapproche ou les a rapprochés. Mais ces deux équipes ne sont pas les seules à pouvoir se qualifier. Car dans ce groupe, l'Arabie Saoudite et le Mexique, qui eux s'affronteront en parallèle, eh bien, peuvent aussi se qualifier. Alors, l'Argentine doit gagner. Vu sa rencontre face au Mexique, qui s'est un peu rattrapé, hein, ce 2-0, et notamment un but de Messi, elle s'est rattrapée après son entrée en lice ratée face à l'Arabie Saoudite, où elle avait perdu. Marc Lebras, que diriez-vous ? Voyez-vous l'Argentine rester au Qatar ?
Je ne sais vraiment pas quoi penser de cette équipe d'Argentine.
Attention, El Jefe vous écoute.
Oui, oui, non, mais on l'embrasse d'ailleurs très fort. Non, non, mais je pense déjà que l'Arabie Saoudite peut se qualifier. Elle risque de passer, puisqu'en cas de victoire, elle passerait devant.
Je le pense aussi.
Elle va vraiment le faire. Et je suis très franc avec vous. Sur ce qu'on a vu dans le jeu, elle mérite plus que peut-être la Pologne ou l'Argentine.
Surtout que le Mexique.
Oui, mais oui, on est d'accord. Mais le Mexique est quatrième dans cette histoire-là. Pour se qualifier,
limite,
il faudrait vraiment
pourrait.
Un concours de circonstances. C'est vrai. Mais l'Arabie Saoudite, sur ce qu'ils ont produit lors du premier match, qu'ils n'ont jamais cessé, ils ont pris au sérieux cette équipe d'Argentine, ont rentré dedans lors du deuxième match. Et là, sur ce match-là, ils peuvent faire la différence. L'Argentine, on attend toujours de voir ce qui peut se passer. Le deuxième
Est-ce
match
que
où Messi marque.
Le deuxième vous a rassuré par rapport à l'état de cette équipe ou pas
Le deuxième match de l'Argentine
Un peu quand même.
Ah ben, tu as un coup de canon de Messi, et tu as une passe décisive, mais il ne se passe rien.
Bah, c'est une faiblesse absolue. Il y a des changements
oui,
qui apportent.
Il a sorti des joueurs, mais Messi,
c'est déjà
même
une
s'il
réaction
a marqué,
du coach, c'est pas
même
mal.
S'il a marqué, il ne fait pas quand même des kilomètres, il ne fait pas les erreurs.
Ah, mais il
n'a
jamais fait ça, Messi.
Ah ben moi, je le vois faire à Paris depuis quelques semaines. J'ai vu, il s'est bien préparé. Le problème, c'est que là, malheureusement, avec l'Argentine, il ne fait plus les efforts qu'il fait à Paris. C'est un petit peu dommage. Après, De Paul, des joueurs qui sont très sympas, ce n'est pas au niveau pour moi aujourd'hui.
De Paul, il a raté ses débuts, mais ce n'est pas irrémédiable.
Ah oui, mais sur deux matchs, c'est emmerdant quand même.
Ma grosse déception, c'est Lautaro, qui visiblement est arrivé au Mondial en ayant oublié la règle du hors-jeu, ce qui est gênant pour un attaquant.
Vous vous souvenez quand même, il y avait eu cette déclaration assez hallucinante après le premier match où Messi était venu devant la presse et avait dit « on a été surpris par la manière dont nos adversaires jouaient le hors-jeu ».
Ah, c'est incroyable, une défense en ligne, dites donc, ils n'avaient plus vu ça. C'est aberrant, je veux dire.
Oui, c'était surprenant.
Ils sont tombés dans le piège cet aveu d'impuissance. Au moins 5 fois de suite. Mmh. Il y a eu 3 buts refusés. Mmh. Et ça montre quand même que c'est une équipe qui peut manquer un peu de lucidité ou qui n'a peut-être qui a pas beaucoup de cordes à son arc. La corde, ça a l'air d'être Messi, hein, surtout. Après, moi, j'ai bien aimé quand même l'apport des joueurs qui ont été lancés pour le second match contre le deuxième match contre le Mexique.
Ouais, on avait enlevé Paredes.
Le petit Fernandez qui a fait une belle rentrée, qui a mis un but magnifique. Il y a quand même des forces vives dans cette équipe. Mmh. Je pense que Scaloni est encore en train de chercher la formule idéale. Ouais. Je pense que ça va passer quand même demain contre la Pologne parce qu'il y a peut-être une plus grande expérience des grands rendez-vous dans cette équipe. Mais effectivement, ce n'est pas brillant pour l'instant.
Shérif, la Pologne, elle a été sauvée. Il a marqué son but, Lewandowski. Mais...
Enfin.
Mais oui, bien sûr, au deuxième match.
Avec un penalty raté lors de... Ouais.
Mais est-ce que vous pensez que cette Pologne peut résister à la furia argentina, c'est-à-dire cette envie quand même? Ils sont arrivés clairement en disant nous, on peut aller jusqu'au bout et Messi doit avoir sa Coupe du Monde et tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Là, on est un peu resté sur notre faim quand même.
La Pologne ne doit absolument pas craindre cette équipe d'Argentine. C'est limité, la Pologne, on l'a vu et tout. Bon, c'est méritoire. Ils ont bien, bien, bien bousculé l'Arabie Saoudite. Leur victoire est méritée, rien à dire. Ils auraient pu gagner 3-4-0 d'ailleurs. Pour en venir à cette équipe d'Argentine, vous pouvez me citer un joueur argentin de classe internationale qui joue dans un très grand club? Moi, j'en vois pas.
En dehors de Messi?
Messi, alors on va me dire Messi aussi.
Messi, pas dans un grand club.
Non, mais après, voilà.
Pardon.
Il y a un gardien intéressant, il joue à Aston Villa, ouais. Il y a De Paul qui joue à l'Atlético Madrid.
Di María, la Juve qui est en perdition.
Lautaro, c'est un joueur récent. Il est très bon. Moi, j'adore Lautaro.
Il est très bon en général. Là, depuis le début du mondial, il est très mauvais.
Ouais, mais
c'est un vrai problème quand même. C'est un joueur qui doit décharger Messi du poids qu'il a sur ses épaules et offrir des fausses pistes et des appels. Il fait rien.
On parle des plus grands attaquants internationaux. Il n'en fait pas partie, pas encore.
Il avait montré de belles choses quand même, ce joueur.
À la base, on n'a pas des joueurs exceptionnels. Le fond de jeu est d'une pauvreté. J'étais plus emballé par ce qu'il faisait en 2018, notamment contre la France ou autre. Je suis inquiet. Moi, je te rejoins, Marc. Je suis un peu inquiet. C'est la Pologne, a priori, ça devrait passer quand même, mais la Pologne a un coup à jouer. Voilà, c'est tout.
Bon, c'est tout. Alors, on passe à autre chose. Même si...
C'est tout. Et puis, c'est tout.
Alors,
mais dites pas que vous êtes emballé par l'Argentine, c'est pas possible.
Je crois que même Alejandro Valente m'a confié qu'il avait été déçu.
Depuis 2006 et l'équipe de Pekerman, j'ai jamais vraiment été emballé par l'Argentine. Désolé, ouais. Alejandro, si
tu vois, t'es pire que moi.
C'est l'air Messi. Hein.
L'équipe de Pekerman était extraordinaire.
Avec Riquelme.
Vraiment.
Oui, on est d'accord.
Cambiasso, Riquelme.
Tu parles d'une époque où maintenant il y a Messi. Et peut-être que Messi, avec l'Argentine, ça a été un rendez-vous manqué.
Ouais. 2014,
ça s'est joué à rien.
Ils font quand même une finale de 2014.
On est d'accord.
Il y a un raté, Patrick, de Messi qui voilà. peut.
Mais il peut rentrer dans l'affaire.
Et de Gonzalo Higuaín.
Malheureusement.
Ouais. Ouais, et 2014, de Gonzalo Higuaín. C'est un bon commando.
Oui.
Bon commando, voilà. Oui. Mais c'est pas en ballon.
Et le deuxième maillot était magnifique.
Une histoire d'amour ratée.
L'Arabie Saoudite, elle, pourrait aussi se qualifier. C'est l'équipe, on va dire, régionale et portée par le public et guidée par son sélectionneur Hervé Renard. Elle sera la qualifiée surprise, Marc.
Ah, mais ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, ils méritent.
Pour moi, ils vont se qualifier aussi, parce que le Mexique est faible. Pour moi, c'est une des pires équipes du mondial.
Ils ont perdu le deuxième match quand même, assez surprenamment.
Ils ont perdu, mais je pense que ils jouent vraiment à domicile.
Oui.
Il y a eu un réchauffement diplomatique entre les deux, entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui fait que c'est plus.
Surtout, c'est tellement près qu'il y a énormément de supporters.
Et ils sont très soutenus et ils ont un entraîneur qui sait comment monter un commando dans une phase finale de grande compétition. Il l'a déjà fait sur d'autres continents.
Et nous, on l'a vu dans les Cannes, bien sûr, double champion d'Afrique. Il y a le groupe D enfin qui jouera aussi demain, alors où la France, elle, a déjà sa place en huitième de finale et elle attend le nom donc de son adversaire qui sera parmi cette Argentine ou Arabie Saoudite. Les Bleus joueront la Tunisie, le Danemark jouera l'Australie. Des Bleus qui se sont entraînés aujourd'hui et où Kylian Mbappé marque les bras, s'est blessé à la cheville, frappé, on le verra jouer demain ou pas?
Ah, je ne sais pas. De toute façon, si Kylian Mbappé veut jouer, il jouera. Puisque
mais c'est grave ou c'est un petit... Vous qui vous êtes entraîné dans votre jeunesse.
C'est un petit... Non, mais c'est un coup. Après,
c'est un coup.
Est-ce qu'on a vraiment besoin de Kylian Mbappé sur un match face à la Tunisie?
Voilà.
Est-ce que dans ces cas-là, il ne faut pas faire tourner, faire participer tout le monde? Mais après, je...
Non, mais il veut jouer, Marc.
Il y a les stats.
Ah non, mais c'est même pas ça. C'est que s'il veut jouer, lui va jouer. C'est même plus le Deschamps qui commande dans ces cas-là, je pense. Donc voilà. Donc on verra. Moi, je le mettrai au repos. Mais voilà, après,
selon certaines sources, en fait, c'est une résurgence d'une blessure qu'il avait eue en finale de Coupe de France contre l'AS Saint-Etienne, où il avait eu mal au même endroit, et ça reviendrait régulièrement.
De temps à autre. Tu me fais peur, là, Patrick, là. Oh.
Non, je vous fais pas peur, mais c'est pas grave.
Mais c'est pour ça qu'il n'aurait pas dû jouer la finale.
C'est une blessure à légère rechute, mais qui est un peu récurrente chez lui, mais qui l'empêche pas d'être disponible sur la durée en pleine possession de ses moyens.
Bon, donc c'était un coup.
Oui.
Il y a une rumeur aussi qui a entouré cette équipe de France ces dernières heures. Karim Benzema pourrait revenir pour jouer avec le groupe après s'être soigné en Espagne. Alors, cette rumeur apparemment vient d'Espagne, de confrères qui l'auraient lancé. Une info ou une infox? Écoutons Didier Deschamps.
Waouh! Ah, j'ai cherché des trucs là. C'est pas quelque chose qui occupe mon esprit, vous savez, la situation. Donc je sais pas après qui dit quoi et sur comment. Bon, j'ai échangé avec Karim après son départ. Vous savez, sa situation et le délai pour qu'il se rétablisse. Donc, moi, j'ai 24 joueurs qui sont là. Je m'occupe des 24 joueurs qui sont là, même si ça m'arrive d'avoir des joueurs qui ne sont pas là, comme Kimpembe aussi qui est venu, Paul Pogba avec qui j'ai échangé. Je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien.
Bon, alors, on l'entend très bien, Didier Deschamps répond. Sans répondre, Patrick Juillard, il reste quand même quelques petites zones d'ombre autour de ça.
Oui, il reste des zones d'ombre, mais je pense qu'il ne faut pas entretenir un feuilleton « reviendra, reviendra pas ». Disons-le clairement, Karim Benzema ne reviendra pas.
Est-ce qu'il pourrait revenir?
Non.
Non,
mais je ne parle pas de...
Même
de,
médicalement,
légalement, c'est-à-dire,
est-ce que légalement...
Il pourrait redébarquer dans le groupe et jouer. Oui, il est toujours inscrit.
En tout cas, la France n'a pas pris de joueur pour le remplacer. N'a pas pris de 26e homme. Enfin, lui, c'était le 25e, il n'a pas été remplacé. Et Didier Deschamps n'est pas monté jusqu'à 26 comme il pouvait le faire. Donc, en théorie, il pourrait, à moins que la France l'ait rayé de la liste, ça, je ne sais pas. Mais... En revanche, il faut arrêter de bercer les supporters du Real, les fans de Benzema et les fans des Bleus d'illusion. Benzema ne reviendra pas. Je veux dire, vu sa blessure, vu les raisons pour lesquelles il a été écarté, il ne peut pas revenir. Ça ne sert à rien d'entretenir un espoir. Et c'est
vraiment
plutôt
une nouvelle bizarre.
Mauvais pour la concentration des autres joueurs. Et je pense même que c'est au corps défendant de Benzema. Lui, il a tourné la page. On lui reproche même de se désintéresser du groupe. Donc là, je ne pense pas du tout qu'il va revenir. Vraiment.
Non, il a quitté le groupe. Point final. On passe à autre chose.
Voilà,
il a
tout.
Quitté le groupe.
Point barre.
Il est plus dans la Coupe du Monde. C'est fini, ça y est. Allez hop, passe à autre chose.
Qu'est-ce que vous en pensez, Marc?
Je pense que c'est une aberration de lire que Benzema allait s'entraîner mercredi ou jeudi. Il allait s'entraîner avec son club. Le staff médical français est assez compétent pour savoir que s'ils vous disent qu'aujourd'hui, le meilleur joueur du monde français est pété...
Ballon d'or,
mais bon, là, on n'en a presque rien à faire. Le meilleur joueur français de tous les temps, qui est exceptionnel, est pété pour un mois. Il ne va pas reprendre. Donc là, c'est un journaliste qui a voulu se faire mousser. Tout le monde a fait cette récupération.
Sans
parce
vérifier,
que,
bien sûr. Sans,
ben, sans, de toute façon, mais tu ne vérifies rien. Moi, je n'ai pas besoin de vérifier. Quand tu sais que le staff médical français te dit « le joueur, il est out pendant un mois pour une Coupe du Monde », que Karim Benzema attend les temps ballon d'or et que s'il te dit « je suis désolé, je dois quitter, laisser ma place parce que je ne suis pas apte, je laisse quelqu'un d'autre », c'est clair et net. À quel moment il va... La seule ambiguïté, c'est que oui, il est sur cette liste comme Théo Hernandez, enfin comme Lucas Hernandez, qui est toujours dans la liste. Voilà, c'est ça. Parce que quand on a reçu les compositions, j'ai commenté le match ici, et c'est vrai qu'ils sont dans la liste, même s'ils ne sont plus là. Après, maintenant, bon. C'est à lui qui doit digérer de ne pas être là.
Et alors demain, cette équipe de France rencontre la Tunisie. Si l'option est de préserver certains joueurs, en pensant déjà au huitième de finale, est-ce que la Tunisie aurait, selon vous, une chance ? Patrick répondra en dernier, parce qu'il connaît trop bien la Tunisie, il va me répondre tout de suite. Vous, Marc, qu'est-ce que vous en pensez ?
Si la Tunisie peut gagner, peut battre l'équipe de France ? Non, je pense qu'ils n'ont aucune chance, parce que normalement, on va avoir entre 6 et 7 joueurs. Donc, ces 6 ou 7 joueurs, ils ont un match à jouer peut-être dans leur vie en Coupe du Monde, pour ceux qui vont être là. Parce qu'on peut être un très grand joueur, peut-être qu'après, il y a une blessure, on n'apparaît plus jamais. Donc, ils vont faire le match qu'il faut et ils vont faire la différence. Et je ne vois pas comment la Tunisie, sur les deux premiers matchs, sur l'état d'esprit, ce qu'on a vu, sur la faiblesse de certains joueurs, comment ils pourraient revenir. Je me pose vraiment beaucoup de questions. Donc, ça me paraît très difficile. Et de l'autre côté, on a les joueurs du banc qui vont sortir pour jouer. Et on a toujours les flèches qui sont disponibles, qui vont sûrement rentrer, mettre le feu et faire la différence.
Chérif Guémour.
Ils ont fait leur match contre le Danemark. Chapeau. Ils se sont fait battre par l'Australie, ce qu'il ne fallait pas faire. Et voilà, pour moi, ils n'ont pas de grande chance.
Les Tunisiens, hein.
Oui, je parle de Tunisie. Pour moi, c'est le match des coiffeurs. Dans l'esprit de Deschamps, tous les joueurs doivent marquer des points. Là, je te rejoins, Marc. Ceux qui vont sortir du banc vont vouloir faire la différence. Cette Tunisie nous a beaucoup déçus dans le jeu, dans l'envie. Enfin, ouais, dans l'envie, voilà, ils ont bien résisté au Danemark.
Parce qu'ils ont mis de l'envie. C'est-à-dire sur tous les ballons de la première minute, ils ont harangué la foule assez bien.
Ça ne suffit pas.
Mais non, ça n'a pas suffi.
C'est pas raison. Ça ne suffit pas.
Je partage l'analyse du début du parcours de la Tunisie, c'est-à-dire qu'ils n'ont Ils ont fait un très bon match contre le Danemark en contraignant cette équipe au nul, ce qui est sur le tableau de marche, c'est très bien.
Oui, parce que
et ensuite, ils n'ont pas su capitaliser là-dessus pour se lâcher et envoyer du jeu et faire autre chose. Ils ont abordé l'Australie comme s'ils jouaient le Danemark une deuxième fois. Et quand on sait que l'Australie commence très bien ses matchs, on l'a vu contre la France, ça leur a été fatal. Ils ont été trop timorés. Et ensuite, quand il a fallu réagir, l'équipe a des armes offensives trop limitées pour pouvoir remonter contre une équipe bien en place, qui a en plus mis des coups un peu plus que de raison. Disons, l'arbitrage a été assez laxiste. Donc, ça ne pouvait pas passer. Et contre la France, je pense qu'ils vont faire un meilleur match, parce qu'il ne faut pas oublier une autre donnée. J'en ai beaucoup parlé avec certains anciens de la sélection. Il y a 10 binationaux, enfin il y a 10 franco-tunisiens sur les 26, et dont 5 ou 6 seront titulaires demain. Donc ça, c'est un match spécial pour eux. Ouais. Ça peut, selon les caractères des joueurs, ça peut soit les inhiber, soit les transcender totalement. Et on se rappelle quand la Suisse avait joué la Serbie, comment Shaqiri et Xhaka avaient été stratosphériques, ils avaient marqué des buts, ils avaient couru comme chacun, comme 3 joueurs. Donc si les Tunisiens peuvent faire ça, demain, contre la France, ça peut niveler un peu les forces. Mais malgré tout, la France a une telle puissance de feu offensive que j'ai un peu de mal à y croire, malheureusement pour la Tunisie. Il faut peut-être que la Tunisie appuie sur les faiblesses françaises, de la déconcentration parfois sur les coups de pied arrêtés défensifs, des alignements en défense. Et voilà, peut-être que ça peut les mettre un peu de doute.
Tu peux pas aborder un match
au-delà de ça, je ne sais pas.
Pas aborder un match comme celui contre l'équipe de France si tu n'as rien prouvé contre l'Australie. C'est contre l'Australie que tu devais élever ton jeu.
C'est là qu'il fallait gagner être en ballotage favorable.
Élever ton niveau de jeu pour arriver vraiment pour finir très fort contre la France. Je vois pas de montée en puissance.
Ça sera demain soir et on aura encore rendez-vous demain soir, même heure, 21h10 en temps universel, pour revenir sur la journée et sur les qualifiés du jour, les éliminés aussi. Mais on reviendra sur la nouvelle qui est tombée il y a peu. Il y aura enfin une femme au sifflet dans cette Coupe du Monde. Alors, en tant que première arbitre principale sur le terrain. Et c'est la Française Stéphanie Frappard qui arbitrera le match Costa Rica-Allemagne. Ce sera jeudi soir. Il y a 6 femmes arbitres dans cette Coupe du Monde. Elles ont beaucoup été appelées au niveau du VAR. Et bien maintenant, elles seront sur le terrain. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Bonsoir à tous et on vous dit à demain.